Que nous venons d'entendre, c'est celle que vous retrouverez à chaque fois que nous irons sur le terrain, sur les routes de la région et découvrir ce qui se passe dans les musées. Et c'est une composition de Baudouin de Jaer, justement un ami belge également, qui nous fait découvrir justement le Ganyagum, une cithare sur table coréenne. Et c'est une petite pièce qui s'appelle Sanjo 4 ou Song 4. Donc on aura le plaisir de la retrouver à chaque fois. Et justement, nous débutons cette fois-ci cette enquête régionale dans l'Ain. Nous nous sommes rendus au musée de la Bresse, domaine des Planons, à quelques kilomètres de Bourg-en-Bresse, près de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon. C'est l'un des 4 musées de la conservation départementale des musées de l'Ain. Et cette émission a été enregistrée le 6 avril dernier. Alors pour cette première émission de notre enquête régionale, comment le musée peut-il dans sa démarche être un espace de dialogue, d'invention et de mobilisation? J'ai le plaisir d'accueillir à ce micro Laurence Paris. Vous êtes chargée de la mission à la conservation départementale des musées de l'Ain, chargée des conseils et des accompagnements de projets muséaux et notamment des personnes en situation de handicap.
Bonjour.
Bonjour. À vos côtés, il y a, et je suis très heureux aussi de vous accueillir à ce micro, Geneviève Joubert. Vous êtes chargée de la diffusion des arts du spectacle CREAM, c'est-à-dire Créativité et Handicap Mental à Liège. Bienvenue.
Merci.
Bonjour. Bonjour. Peut-être, Laurence Paris, on pourrait essayer de formuler, en tout cas de dire que, sous l'impulsion du Conseil général de l'Ain, de la conservation aussi départementale des musées, il y a des efforts très importants qui ont été effectués depuis, disons, une dizaine d'années pour rendre accessible, en tout cas, tant sur le plan du bâti que de l'accès au contenu, aux œuvres, au patrimoine, et que ceci a mobilisé fortement l'équipe de la conservation départementale.
Oui, complètement. C'est vraiment une volonté du Conseil général de l'Ain. Alors, bien sûr, on est soumis à la loi sur le handicap, mais au-delà de l'obligation légale d'accessibilité, de rendre nos musées accessibles, il y a avant tout une obligation morale, je dirais, que défendent heureusement nos politiques, de placer le citoyen au cœur des politiques publiques, donc bien sûr tous les citoyens dans toute leur diversité. Et cela répond aussi à l'égal accès de tous, enfin, au droit de tous, à l'égal accès à la culture. Donc, c'est une mission menée effectivement depuis plus d'une dizaine d'années par les musées, de rendre les musées accessibles. Alors, en termes de bâti, effectivement, donc, les 4 musées départementaux sont labellisés tourisme et handicap pour l'accueil des personnes en déficience auditive et mentale. Alors, hélas, nous n'aurons certainement jamais le label handicap moteurs, enfin, des déficiences physiques.
Parce que les sites le permettent, dis donc, plus ou moins.
Parce que voilà, nous sommes, tous les musées sont installés dans des bâtiments historiques, donc bon, il y a d'autres
qui font que...
Exactement, d'autres, des obstacles majeurs. Par contre, après, il y a une vraie politique volontariste du Conseil général en matière d'accessibilité, notamment par la politique tarifaire. Tous les musées sont gratuits aux personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs. L'accessibilité, effectivement, du contenu par beaucoup de supports, de médiation, des traductions à LSF, des audiodescriptions, des caractères gras, des traductions en braille, etc. Enfin, pour le normal accès de tous à la culture. Donc des outils, mais également surtout des personnes, des médiateurs qui s'investissent dans un accueil adapté, privilégié.
Mais comment, justement, parce que ça, là, quand on vous entend, on parle un petit peu de tous ces outils. J'imagine qu'il y a 10-12 ans, c'était un travail énorme de faire prendre conscience peut-être à l'équipe, à ses médiateurs. Qu'est-ce qu'il fallait faire justement pour que tout le monde rentre un petit peu dans cette approche, dans cette prise de conscience?
Alors effectivement, c'est peut-être le plus dur à faire, de faire évoluer enfin, les consciences, enfin, surtout une prise de conscience. Donc il y a eu des formations, surtout des rencontres. Hein, c'est toujours dans l'échange qu'on s'enrichit le plus. Donc des rencontres avec des personnes en situation de handicap qui nous ont confrontés à leurs difficultés.
Difficultés par exemple sur certains musées, vous dire ça on peut pas, ça nous interroge.
Complètement, c'est... voilà, dire leurs besoins. Qui ne sont d'abord, le handicap n'est qu'une situation en fait. Hein. Ce sont des personnes autonomes dans leur environnement, chez eux, etc.
Ça veut dire que du coup, c'est l'environnement bougé.
Eh bien, tout à fait. Donc c'est cette prise de conscience qu'il a fallu donner aux personnes ici, aux agents d'accueil, qui sont confrontés, qui ont essayé des fauteuils roulants, qui ont essayé avec des casques de ne rien entendre, etc. De quoi on avait besoin vraiment d'être confronté à cette problématique-là. Donc des formations et puis après l'implication de tous, c'est-à-dire que sur tous les musées il y a des référents qui du coup développent des sensibilités et puis surtout des compétences particulières pour répondre au mieux aux besoins des personnes en situation de handicap, mais jusque dans le service technique où il y a également un référent pour toujours être toujours en alerte par rapport aux normes et aux besoins de confort. C'est surtout du confort pour tous, d'ailleurs, je voudrais
dire. C'est
pas spécialement pour tout le
monde aujourd'hui.
Exactement. Donc, on y est tous gagnants et tout le monde en est conscient, et bien sûr notre conservateur en premier chef. Donc,
Delphine Calmeau, et je la remercie au passage d'avoir facilité justement un peu l'organisation de cette émission ici au sein des musées de la presse. Et puis, elle a un fort engagement effectivement sur tout ce que vous venez nous indiquer sur la politique, en tout cas d'accessibilité des personnes en situation de handicap dans ce département.
Complètement, mais c'est important que, quand même une politique doit être portée avant tout par les chefs, les élus au premier ordre, et puis notre conservateur, qui nous incite et nous implique à nous investir.
Et sur le point de vue de la médiation, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Parce que, bien sûr, vous aviez déjà l'habitude d'accueillir des publics, et certains des professionnels que vous évoquiez tout à l'heure étaient déjà dans cette posture, et du coup, qu'est-ce que ça a obligé de revisiter au niveau de la médiation?
D'être vraiment à l'écoute, parce qu'en fait, on apprend beaucoup, surtout. Donc, à s'enrichir de cette diversité dans nos accueils, etc. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, ces expériences nous amènent à améliorer le confort de tous ou même notre propos pour tous, des choses pour lesquelles on n'avait peut-être pas une sensibilité dans le premier titre. Et puis, c'est une ouverture d'esprit, en fait, toujours dans ces rencontres.
Ça, c'est important. Alors, en plus, événements, on va dire, tout en le mesurant, bien évidemment, mais sont accueillis ici, dans ce domaine des Planons, ce musée de la Bresse. reprise pour la première fois finalement l'intégralité, en tout cas une grande partie de l'œuvre de Virginie Laurent, donc une personne aussi qui suit depuis de nombreuses années, donc qui met son travail, son chemin artistique dans un atelier accompagné par Christine Collard, l'atelier Clin d'œil au Centre social de la Ressource à Bourg-en-Bresse, et qui fait qu'aujourd'hui une vingtaine de ses œuvres sont présentes dans le musée. Et ça, c'est aussi quelque chose de nouveau, finalement, en tout cas un pas supplémentaire qui se franchit.
Ah oui, complètement. Alors là, c'est une très belle évolution parce que pour le moment, donc, on était plutôt dans les politiques de, voilà, d'accessibilité, de se rendre accessible, d'ouvrir nos portes. Mais là, je dirais, l'étape supplémentaire, c'est que les personnes en situation de handicap deviennent acteurs du musée, s'y expriment également et puis, et surtout, du coup, se rendent visibles. Et c'est, je pense, important dans notre société et rencontre le grand public. Voilà, effectivement, le vécu de Virginie Laurent, sa sensibilité, son monde qu'elle exprime dans ses tableaux, sont donnés à voir à tous les publics. À notre grande surprise, eh bien, je dirais qu'il n'y a même pas de surprise. Enfin, ça se passe extrêmement bien. Les œuvres de Virginie Laurent sont installées dans la grande halle d'exposition permanente.
Donc là, on est dans l'espace de circulation où tout un chacun arrivant dans ce musée va forcément rencontrer ses œuvres.
Tout à fait. Elle côtoie le patrimoine bressan, traditionnel. Et en fait, justement, cette rencontre, cette proximité se fait très, très bien. Et les publics en sont ravis, mais... C'était une évidence.
Sereinement et de créer
si on se reporte un peu quelques années, donc 1979, je pense qu'il y aurait des similitudes avec nos, bien sûr, notre territoire français, mais plutôt en Belgique, là aussi, peut-être difficulté à faire que peut-être tous ces publics puissent avoir accès à des pratiques d'expression.
Absolument. Au départ, ce sont certaines activités qui étaient peut-être menées par les éducateurs,
oui,
qui n'étaient pas des spécialistes en la matière. Et puis, bon, les professionnels ont décidé de mettre en valeur, d'encadrer, de valoriser, d'exposer.
Et puis, c'est un vrai regard, finalement.
C'est un vrai regard critique. Il y avait des choses qui ne pouvaient pas être exposées, mais qui l'étaient.
Mais ça, je crois que c'est important aussi, là, finalement. C'est pas parce qu'on est une personne en situation de handicap, un signe sur le papier ou décrivant quelque chose ou s'exprimant sur le papier ou que ce soit en musique ou que ce soit par la danse ou par le théâtre, parce qu'on s'exprime à travers l'expression artistique, on est forcément devenu un artiste, on est forcément un
artiste.
Voilà, et ça, je pense que cette nuance est
très important. Donc, on a, grâce aussi au public qui était régulièrement présent dans les expositions, parce que le regard du public était bien sûr fondamental. Et donc, nous avons fidélisé notre public, nous avons étendu notre projet. Et puis, il y a eu l'ouverture d'un centre de jour spécifique, un centre de service d'accueil en journée pour adultes qui a assis le projet, qui a vraiment conforté le projet. Et le fait de ne plus être marginal, le fait d'être reconnu par les ministères, a fait que le projet est très solide et maintenant il a été vraiment reconnu internationalement.
Tout à fait. Et ça veut dire justement, quand vous évoquez le phénomène de reconnaissance, on peut imaginer que, bien sûr, les institutionnels, le monde de la culture, dans les années 1979, ont regardé peut-être de manière un peu particulière justement cette initiative. Et si on se reporte après, effectivement, ces 30 années d'engagement de terrain fort et important, est-ce que les choses aussi, de votre point de vue, ont contaminé, si je peux peut-être utiliser ce terme-là, les autres secteurs? C'est-à-dire, du coup, on a vu en France, par exemple, que, on évoquait avec Laurence Paris sa loi du février 2005, mais bien antérieurement aussi par rapport à cette loi, plein de choses se sont passées sur le terrain, dans les établissements, des artistes se sont engagés. On a senti une effervescence importante qui, aujourd'hui, font que pas moins de les consciences, même s'il reste effectivement encore beaucoup à faire, et c'est un combat permanent au quotidien, les choses ont quand même ouvert. Vous feriez ce même constat terrain, une expérience comme le CREAM, sa longévité, son inscription comme ça, a duré tout le déploiement que vous citiez là tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose qui a contribué à faire que les autres lieux culturels qui sont là à vos côtés, qui ont aussi des missions de service public, se sont engagés? Ça fait bouger des choses?
Oui, je crois que oui, puisque dorénavant, non seulement le CREAM, mais d'autres institutions, d'autres ateliers se sont créés en Belgique. Et nous avons des partenariats avec des lieux culturels, et je parle pour le CREAM. Nous sommes partenaires, nous avons beaucoup de partenaires dans le milieu culturel.
Les musées,
les lieux de pratique, les lieux d'art contemporain également. Et ça, c'est vraiment
important. Ça veut dire que c'est eux qui vous sollicitent pour emprunter des œuvres, ou comment ça se passe
aujourd'hui? Nous n'avons pas d'architecte, mais nous proposons des expositions.
C'est ça.
Nous faisons des échanges, nous organisons des ateliers, nous participons à des ateliers qui sont organisés dans les musées, par exemple. Et en tant que musée, il y a aussi un service pédagogique qui est proposé au public scolaire, au public d'institution.
Et ça, c'est important ce que vous soulevez avec le musée. J'aimerais bien peut-être pouvoir, peut-être vous nous en disiez peut-être plus. On a compris toute la démarche dans le Boulanger, cette prise de conscience aussi de manque justement d'endroits pour toutes ces personnes d'avoir accès à une expression. Et on sait combien c'est important pour tout le monde. Et puis à un moment donné, il y a l'idée d'essayer de formaliser un espace, un lieu pour justement, alors plutôt sur le côté art pictural, mais en tout cas d'avoir un musée de l'art différencié. Alors comment est venue cette idée de dire voilà, on va pouvoir mettre en œuvre un tel lieu finalement?
Au départ, en 1994, le boulanger a constaté que les œuvres étaient magnifiques et qu'il était dommage, s'il n'était pas vendu, de ne pas les conserver. Il a créé donc le centre d'art différencié avec le début d'une collection permanente. Quelques années après, la collection est devenue vraiment quelque chose de reconnu. Le MAD a été créé, le MAD Musée maintenant, puisqu'il est reconnu par le ministère, par la province de Liège également.
Donc ça veut dire qu'il y a des soutiens financiers également?
Il y a des soutiens financiers, des emplois qui ont été accordés. Donc, cette collection maintenant s'enrichit de plusieurs milliers d'œuvres et ces œuvres sont exportées dans d'autres musées, notamment pour le moment, il y a une exposition à Chicago, à Boston.
Oui, parce que voilà, je lisais un petit peu dans les différentes notes qui me sont parvenues, plus de 2300 pièces. C'est énorme.
Oui, mais c'est énorme. Il y a des pièces qui viennent du Japon, de pays d'Europe. Vraiment, c'est
oui,
un grand travail de conservation et de diffusion.
Ça, c'est quand même. On pourrait bien sûr faire le pont avec le musée de l'Arboretum, mais on y viendra peut-être parce qu'il y a aussi des petites nuances de votre côté entre Arboretum, enfin, toutes ces tendances aussi aujourd'hui, et le préamé sa posture, bien évidemment, par rapport à tout ça. Je crois que c'est intéressant d'en parler justement, mais en tout cas, ça devient un lieu emblématique, le musée, comme on peut aller voir tout proche pour nous, Lausanne n'est pas loin, le musée de l'Arboretum aussi à Lausanne, donc ça devient aussi un lieu. Sur lequel aujourd'hui il compte énormément, à la fois pour la préservation des œuvres, comme vous l'avez soulevé, et puis qui est une problématique d'ailleurs qu'au cours de cette enquête on va poser, effectivement, parce que de nombreux ateliers existent un peu partout, bien sûr ici. On n'a encore pas forcément des lieux du même ordre, mais on s'interroge en même temps, et c'est pour ça que la présence aussi des œuvres de Virginie Laurent, par exemple, cette artiste aussi en situation de handicap, qui se trouve accueillie ici dans ce musée, nous permet aussi de s'interroger effectivement en conservation, en circulation, rendre visible aussi à un public plus élargi également ces œuvres. Là, il y a vraiment un fondement important. Et donc, ça veut dire que c'est une équipe importante qui se trouve au sein du même musée.
Oui, il y a une petite personne qui travaille.
Et donc, c'est conséquent.
Une personne qui est avec nous au service pédagogique, il y a la collection permanente, il y a le centre de documentation sur l'art et le handicap mental. Les expositions temporaires.
C'est combien de visiteurs par an?
C'est plusieurs milliers de visiteurs. Plusieurs milliers, une dizaine de milliers de visiteurs.
Ouais, donc, bon, si
c'est une visite importante. Nous avons la chance d'être très bien situés dans un parc important de la ville. Il y a une très jolie cafétéria. Ce genre de choses sont des éléments qui
sur
le public.
Mais si je ne me trompe pas aussi, dans les petites notes de recherche que j'ai pu faire, vous êtes en pleine aussi expansion architecturale.
Oui, le bâtiment des années 60 ou 50 ou 60 ans, il est vraiment beaucoup trop petit et puis il est un peu obsolète, on va dire. Et il y a un projet de construction, d'extension, de rénovation mené par deux architectes de Villejoie. Thank you.
cet extrait musical, nous continuons aussi de découvrir le travail de la compagnie Fracas, qui est sur donc, la région Aquitaine, notamment sur Bordeaux. Et là, c'est l'extrait d'un moment de musique qui était réalisé à l'hôpital Charles Perens, à l'unité Charcot de Bordeaux, et qui réunissait justement des patients, des infirmiers et ces musiciens. Donc, ces musiciens qui sont Roland Bourdon, Sébastien Capaza, Frédéric Cazot et Denis Cointe, qui eux aussi se lancent dans ces rencontres musicales avec tous ces publics, patients, infirmiers, et un très 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 beau moment de musique que nous venons d'entendre. Et toute notre conversation de tout à l'heure, finalement, l'une à l'autre, me semble aussi venir finalement questionner aussi qu'est-ce que c'est qu'un musée aujourd'hui, finalement. On voit que lorsque, en tout cas au travers des témoignages de l'une et de l'autre, on voit que des choses, des lignes sont en train de bouger, en tout cas que ça interpelle, et que du coup, parce que on parlait de prise de conscience tout à l'heure, où on est dans des contextes pour provoquer aussi finalement des initiatives, des projets, des manières de faire, s'inscrivant dans une durée, et que là il y a des prises de conscience d'un public, prise de conscience d'un contexte culturel, territorial, politique, aussi également, et qui fait qu'à un moment donné, ça vient mettre en mouvement ou interpeller qu'est-ce que c'est qu'institution musée finalement, quel rôle doit-il avoir. Alors, c'est peut-être une question que je pose un peu à l'une et à l'autre, aussi bien à vous, Laurence Paris, sur la conservation départementale des musées, et puis Geneviève Joubert sur un autre pays, avec aussi d'autres dimensions, avec le CREAM. À votre avis, qu'est-ce que c'est un musée aujourd'hui, ou qu'est-ce que ça devrait tendre à être un musée aujourd'hui?
Alors, je me lance.
À
mon avis, un musée, je vais peut-être me répéter, mais c'est un lieu de rencontre. C'est une institution culturelle dans la cité. Alors, même si nous sommes en campagne, en pleine et belle campagne bressane, mais il n'empêche que c'est un lieu de résonance, de rencontre. Donc, entre les publics, entre donc des propositions culturelles. Donc les musées départementaux, pour trop d'entre eux, sont des musées de société. Donc ils reflètent effectivement la société du 19e siècle. Mais donc pour moi, qu'est-ce que c'est vraiment un musée? C'est un lieu où on s'interroge, parce qu'il ne s'agit pas de fixer un patrimoine, mais de le donner à le questionner, à quoi ça sert, quelles sont nos évolutions aujourd'hui sociétales, et à interroger tout ce patrimoine pour éclairer nos questionnements d'aujourd'hui.
Donc, au-delà de la sanctuarisation, on va dire de la protection, mais on sait que c'est important parce que le musée abrite aussi des œuvres qu'on détermine à un moment donné qu'il est important de sauvegarder, qu'il est important de faire partager à d'autres. Alors, sans parler de muséification pour aller pousser les trucs, mais on a peut-être quelque chose qui nous emmène ailleurs ou qui nous oblige à aller ailleurs si on veut que ça soit pas uniquement un lieu sacralisé finalement, mais un lieu complètement ancré dans la vie, quoi.
Complètement ancré dans la vie, un lieu d'interrogation et donc à nouveau un lieu de rencontre, et même d'altérité, voire se confronter à des différences donc entre les différents publics, entre les différentes formes de culture, donc bien sûr avec l'ouverture aux artistes contemporains qui nous amènent vraiment à nous interroger, mais à des personnes qui ont d'autres sensibilités, qui nous amènent là aussi à regarder les choses différemment. Encore une fois, je mettrai en avant l'exposition Virginie Laurent aujourd'hui, qui nous propose son monde aujourd'hui contemporain, avec notamment ses artistes préférés. Et côte à côte de ces tableaux où on voit ses artistes préférés, il y a un tableau représentant la noce bressane avec les artistes traditionnels. Donc là aussi, ça pose plein de questions sur la place de la musique dans nos sociétés, l'évolution. C'est une mise en miroir, en regard des perceptions, des sensibilités, et pour faire qu'on aille vers du vivre ensemble, en tout cas.
Et pour vous, Geneviève Joubert,
j'adhère complètement à votre présentation et à votre opinion sur le musée. Au niveau du musée, on fait aussi beaucoup d'intégration d'œuvres contemporaines où on met en regard les œuvres d'artistes porteurs de handicap avec des artistes contemporains. Il y a souvent donc résonance entre les deux. Et on trouve ça vraiment passionnant, ce travail
sur la circulation, la mise en connaissance, la circulation aussi de cette connaissance à travers différents types de documents et de traces.
C'est ça, faire circuler les œuvres, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, qu'en Europe, et produire des catalogues et faire des études, et ça c'est vraiment fondamental.
Peut-être en écho à votre approche de définition de ce que pourrait être, ou ce que doit être aussi un musée d'aujourd'hui, peut-être celle de Christian Bernard, là, qui est directeur du Manco à Musée d'art moderne et contemporain de Genève, par exemple, et lui aussi évoquant ce que pourrait être finalement un musée, ou ce que doit être un musée. Il dit un petit peu ceci, c'est donc un musée de proximité, le musée citoyen que nous voulions bâtir. C'est la maison des objets dont nous pensons qu'ils méritent de nous survivre et qu'il nous revient de sauvegarder, de transmettre. C'est un espace public qui se doit être de plein pied avec la cité, à l'écart du marché des dogmatismes idéologiques, un espace accueillant pour tous ceux qui ne craignent pas de renoncer aux préjugés et veulent faire l'expérience des formes et des idées qu'avant des artistes d'aujourd'hui formaient et idées qui souvent anticipent sur l'évolution de notre vie ou l'éclairent d'un jour nouveau, agrandissant le monde et notre façon de le sentir et de le comprendre. Et là, c'était dans le cadre d'une revue aussi passionnante qui s'appelle Art Passion, qui est une revue suisse, justement, d'art et de culture. Et c'était un peu dans ces thèmes de mars dernier, donc on est tout proche. Voilà, c'était aussi tout un questionnement qu'il avait sur, voilà, sur ce que devait être un musée. Et on sent qu'il y a là-dessus, bon, là, je prends l'exemple suisse, on vient d'avoir avec vous, Geneviève, pour côté Belgique, et vous, Laurence, pour ici, on sent que c'est quelque chose qui est en train de... Ça fait débat beaucoup, hein, je pense notamment lorsque les musées ont commencé d'accueillir aussi toutes les expressions artistiques des pays d'outre-mer ou d'autres régions, on s'interpellait beaucoup sur la place, justement, de ces œuvres, pourquoi transférer ces œuvres. En tout cas, la place que pouvait avoir, justement, finalement, toutes ces expressions au sein d'un musée, et on sent que ça, c'est quelque chose qui est en train de, me semble-t-il, de bouger beaucoup. C'est votre perception, si j'en ai l'air.
Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a aussi quelque chose d'important que je voulais ajouter. Oui. C'était la place du commissaire. Mm-hmm. À chaque fois qu'il y a une exposition à proposer, le fait de changer de commissaire pour mettre en lumière des œuvres qui ne sont pas nécessairement exposées assez intéressant comme nouvelle découverte des œuvres. Voilà, je voulais mettre l'accent là-dessus.
C'est vrai qu'aussi, ce que vous souligniez tout à l'heure, de faire la rencontre, c'est-à-dire l'artiste est là où le même propos est dans l'art pictural, bien évidemment, par rapport à notre thématique d'aujourd'hui, mais le fait de pouvoir faire se rencontrer, mettre au miroir des œuvres d'artistes valides contemporains, de personnes en situation de handicap, on n'est plus en train de parler de handicap ou de ci ou de là, mais vraiment d'une pratique, vraiment d'une expression, et en même temps, comment elles se rencontrent, ces expressions, finalement, elles parlent des mêmes choses, elles utilisent des techniques, voilà, enfin, on est moins en train d'examiner la technique pour la technique, mais l'expression qui nous est rendue par ces hommes et ces femmes, finalement.
C'est l'œuvre qui compte, essentiellement. Il y a des personnages, c'est l'être humain, c'est l'humain, donc c'est la vie. Les œuvres sont la vie, c'est le reflet de la vie de ces personnes.
Si je me souviens bien aussi, Laurence Paris, quand Geneviève Joubert évoque aussi également cette rencontre avec des artistes, ici aussi, à la Ferme des Planons, il y a quelques années, il y avait eu une artiste présente ici, et puis qui avait travaillé avec différents ateliers, différentes personnes en situation de handicap, pour réaliser une œuvre d'ailleurs qui est toujours dans les murs.
Bien sûr, une très très belle expérience où justement encore des personnes en situation de handicap ont pour le coup vraiment adopté le patrimoine, plus encore adopté ce musée, son environnement, ses paysages, puisqu'ils ont travaillé avec une artiste à la réalisation de tableaux de terre. En prenant la terre ici présente de la ferme des Planons, en la travaillant, en l'oxydant, la brûlant, et ça a donné lieu à la réalisation de 12 tableaux de terre qui forment un magnifique panoramique, et puis là encore qui reflète des sensibilités, vraiment des expressions qui sont vraiment riches de sens. Et ce qui est très important, c'est que ces tableaux ont intégré les collections publiques de France. Donc voilà, là aussi, c'était un geste fort pour nous et de la part de notre conservateur de considérer cela vraiment comme une œuvre artistique révélatrice donc, et qui avait toute sa place ici au musée des Palons. Donc c'est, elle est exposée de façon permanente et dans les collections donc, publiques de France.
J'aime bien Joubert, est-ce qu'on pourrait, si on regardait un peu encore un petit peu plus loin dans les années futures, est-ce que vous penseriez que, avec bien sûr tout l'ancrage dont vous nous avez fait part, le Man Musée, est-ce que la situation vous semblerait pouvoir évoluer à faire qu'un jour peut-être on n'ait plus besoin du Man Musée, c'est-à-dire que du coup, l'ensemble des musées ou des lieux de présentation pourraient être un jour les relais possibles de cette action?
Oui, pourquoi pas, mais je crois qu'il y a aussi des musées qui aiment bien garder leur spécificité. Par exemple, je ne sais pas, aux États-Unis, le musée des Indiens d'Amérique. Donc voilà, on va voir ce musée-là, peut-être porté à notre nom maintenant, parce qu'il y a le temps de les visiter à New York, mais voilà, je ne sais pas. C'est vraiment une question, peut-être, pour être un conservateur.
En tout cas, est-ce que vous sentez, de par votre action avec le Man Musée, que finalement d'autres musées se mettent à accueillir, comme le site un petit peu Laurence ici, on accueille pendant un mois les œuvres d'une artiste en situation de handicap, est-ce que, grâce, j'imagine aussi, à votre travail de sensibilisation et d'approche, mais est-ce que, par exemple, en dehors de ce site, ça leur arrive peut-être d'être à l'écoute d'un artiste en situation de handicap et d'essayer de l'accueillir aussi, de trouver les modalités d'accueil de ces œuvres au sein de leur propre exposition, leur lieu?
Je sais que la collection permanente du MAD a déjà été montrée dans un musée des Beaux-Arts de Liège. Il y a eu un gros catalogue de réaliser également. Donc là, c'est l'accueil d'une collection d'un artiste particulier. Je n'ai pas entendu, on n'a pas encore eu. Par contre, évidemment, dans les musées d'art brut, le musée des Racines, le musée de Vasque, qui est
le présentant. Ça me permet peut-être de venir aussi, parce qu'elle est intéressante, je pense, aussi, un peu approchée aussi dans le fait. Et il me semblait aussi, finalement, quand on projet artistique purement du créable, vous aviez une petite distinction aussi, peut-être, en tout cas, j'aimerais peut-être que vous puissiez nous éclairer dessus, entre il ne s'agit ni de l'art des fous, ni de l'art brut, mais vous vous situez à un entre.
C'est vraiment une question piège, je trouve.
Que c'est pas pour vous piéger. Et je trouve qu'elle est intéressante sur le fond.
Effectivement, c'est art réalisé par des personnes porteuses de handicap et porte plusieurs noms. C'est du rapport à l'énorme, l'art outsider, l'art brut, l'art en marge, la compagnie en musée à Bruxelles, l'art arrive. Vous voyez, c'est très. Enfin, moi, je ne sais pas. Le boulanger avait cité cet art en le nommant l'art différencié. Voilà, je ne sais pas, je suis tout à fait perplexe par rapport à ça, je n'ai pas de réponse à transmettre. Je trouve que toutes ces appellations, de toute façon, nous parlent à nous. Et on sait bien que c'est ça. Donc on peut, quel que soit le nom qu'on lui donne, je ne sais pas si vous êtes d'accord, madame, mais je trouve que. Ces termes nous parlent et on est tout de suite interpellé. Voilà, mais je n'ai pas de nom spécifique.
Ça, c'est peut-être intéressant. Est-ce qu'on a forcément besoin d'un nom spécifique? Voilà, c'est aussi peut-être est-ce qu'on a besoin de catégoriser? Est-ce qu'on a besoin? On est dans des sociétés qui catégorisent beaucoup et qui veulent aussi, finalement, il y a les schémas de croyance aussi à un moment donné. Peut-être le danger, est-ce que peut-être voilà, d'en faire une croyance, enfermée dans sa manière, c'est peut-être aussi un danger en lui-même. Toute croyance est toujours un peu délicate dans ses enfermements. Voilà, mais je pense qu'en même temps.
Mais peut-être qu'au départ, c'était important de
absolument. C'est toujours intéressant aussi également, c'est-à-dire que ça renvoie aussi se questionner sur ce qu'est le musée aujourd'hui, la présence de ces œuvres dans le musée, peut-être questionne aussi finalement ces courants, qui n'empêchent pas bien sûr leur existence, ils ont été très importants, et ils sont encore importants aujourd'hui, mais peut-être ça va re-questionner aussi ces circulations, ces appellations, et d'ailleurs on le voit bien dans les œuvres de Virginie Laurent, il y en a qui peuvent effectivement produire de l'art brut, mais d'autres qui ne sont pas du tout de cette dimension-là, si on peut le dire, donc du coup, quelque part, alors que l'intérêt de l'expression, de ce que nous propose à voir, le regard qu'elle porte aussi sur le monde de Virginie, est intéressant et important et à sa place. aussi, c'est ce qu'on essaie d'approcher dans cette enquête régionale également, ça questionne l'institution en tant que telle, ça questionne ce que peut-être les lieux de présentation, et en même temps les courants aussi en eux-mêmes, et je trouve que là aussi il y a quelque chose d'intéressant, on va le retrouver en musique, on va le retrouver dans les autres, comme il n'y a pas de musique des personnes handicapées, il n'y a pas une danse des personnes handicapées, il y a la danse, il y a la musique, il y a l'art pictural, ben, je crois que ça nous interpelle aussi sur ces questions-là.
Complètement, il faut être dans je dirais, l'ouverture totale, nous, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc voilà, ouvrir nos portes, mais aussi nos modes de pensée. Effectivement, on est tous un petit peu pris dans nos carcans, nos références, nos fonctionnements. Donc peut-être que la voie, c'est vraiment le partenariat. D'ailleurs, c'est le résultat de l'exposition Virginie Laurent, on est un des résultats. Mais s'ouvrir à d'autres pratiques, celles du monde social, celles du monde médical, celles du monde du handicap, s'ouvrir aux artistes. Mais plus que dans l'ouverture, vraiment dans le faire ensemble. Là aussi, en brisant un petit peu les étiquettes, on arrivera sûrement à du meilleur, j'espère.
En tout cas, on pourrait évoquer aussi dans ces idées de mouvement, parce que ça, c'est... peut en parler, même si pour le moment le sujet reste à approfondir et à travailler et à être validé peut-être sur le terrain ou non, mais il y a quand même peut-être aussi l'idée de rejoindre les forces à la fois de la conservation départementale et la direction aussi de la lecture publique, donc le lien avec toutes les bibliothèques qui se trouvent sur un territoire qui est celui de l'Ain, et peut-être, alors on n'a encore pas déterminé, ça ne sera peut-être pas le musée, ça sera est-ce que ça sera une artothèque, mais il y a quand même l'idée comment la collectivité territoriale pourrait devenir aussi un espace un peu comme vous l'avez dépeint tout à l'heure à Genève, rassembler des œuvres faites justement parce qu'il y a besoin qu'elles soient sauvées, parce qu'il y a besoin qu'elles soient sauvegardées, parce qu'il y a besoin de démontrer à d'autres qu'elles circulent. Et il y a en gestation, en tout cas dans l'idée d'avoir peut-être l'émergence sur notre département d'un espace un peu comme celui-ci qui puisse permettre justement de rendre lisible toutes ces œuvres. Et là, c'est un bon projet aussi pour la conservation, j'imagine.
Oui, complètement. Mais là encore, ça va dans ce que je disais, c'est en fait d'aller à la rencontre, de faire exploser les murs du musée pour aller toucher le public dans tout le département, donc dans d'autres lieux, effectivement, peut-être les bibliothèques, etc. Et tout en constituant effectivement peut-être une collection nouvelle, une proposition nouvelle. Effectivement, avec ces œuvres issues d'instituts médicaux, sociaux ou d'ailleurs encore. Et d'aller à la rencontre vraiment des personnes, du public, proposer ces nouveaux regards, donc sous d'autres formes. Donc c'est vraiment, on est dans l'ouverture totale.
Merci, en tout cas. Nous allons pouvoir poursuivre au cours de cette enquête régionale et au cours de toute la saison prochaine radiophonique. Donc continuer ces questionnements, peut-être aussi, et pourquoi pas, continuer à distance aussi, Geneviève, aussi cette réflexion. Parce qu'effectivement, il se passe beaucoup de choses en Belgique, justement, et quelquefois dans des domaines beaucoup plus pertinents, ce domaine est beaucoup plus pertinent que chez nous. Et c'est vrai que d'aller regarder au-delà de nos frontières est complètement essentiel, extrêmement important, peut-être encore plus aujourd'hui. On espère bien justement essayer de contribuer aussi à notre manière et puis en même temps de voir un peu là où on en est effectivement sur le terrain et comment ça se passe et comment chacun et chacune essaye, que ce soit du côté de l'institution, mais aussi des peintres même, que ce soit aussi de ceux qui les accompagnent, des professionnels aussi du médico-social. Comment ça se passe sur le terrain et en tout cas de rendre aussi nos auditeurs participatifs de cette réflexion, parce que là aussi c'est important aussi que la plus large public s'empare aussi de ces questions, qu'elles ne soient pas que d'affaires aussi également de spécialistes.
Thank you.
Vous êtes toujours sur Tropic FM avec Résonance et nous venons d'entendre Lèche, une pièce du compositeur François Rosset pour flûte chinoise. François Rosset qui était notre invité le 5 avril dernier pour le concert d'ouverture du Festival des Sept Chemins de Traverse dans les ateliers de Les Atus Bensui de la BPI de l'Ain. Et cette pièce, Lèche pour flûte chinoise, était interprétée par Anna Hotzmann. Là aussi, une manière de voir comment, finalement, des instruments d'une autre culture, mais aussi traditionnels, finalement, deviennent aussi toujours des acteurs du langage contemporain d'aujourd'hui, et notamment comment un compositeur revisite, s'approprie aussi ce passé, et le fait devenir aussi, voilà, encore quelque chose qui a tout à fait sa force, justement, et peut-être même plus de force encore, parce qu'il est chargé de toute cette histoire également. Qu'il a en lui-même, qu'il a porté et qui nous donne le grand plaisir d'entendre cette voix de François Rosset que nous aurons l'occasion de pouvoir réentendre ici. Et bien, nous arrivons maintenant au terme de cette émission enregistrée le 6 avril dernier au Musée de la Bresse, le domaine des Planons. Je remercie à nouveau Laurence Paris pour son accueil.
Merci à vous.
Et puis, bien sûr, même s'il n'est pas parmi vous, Delphine Cano, conservateur départemental des musées de l'art pour nous avoir facilité l'organisation de cette émission. Et puis, merci aussi à vous, Gilles Joubert, de Crème de Liège.
Merci beaucoup
d'avoir été aussi parmi nous et de nous avoir aussi